Bonjour Marie.
Bonjour Valérie.
Bonjour chers auditeurs. Au fil des notes vous accueille aujourd'hui sur Couleur FM 97.1 pour vous parler du compositeur Maurice Ravel. Alors sa vie, Maurice Ravel, de son nom de baptême Joseph Maurice Ravel, est né à Cibourg le 7 mars 1875 et mort à Paris le 28 décembre 1937 dans une famille bourgeoise, cultivée et mélomane, fils aîné de Joseph Ravel, un ingénieur mécanicien d'origine suisse. Et celui-ci était doué d'un esprit inventif, curieux de toutes choses et particulièrement attiré par la musique. Alors Joseph Ravel s'enchantait à l'idée qu'un de ses fils pût devenir compositeur. Et ce fut dans le petit Maurice, alors âgé de 6 ans, que son père reconnut un certain don musical. Il ne s'était pas trompé, Marie.
Non, admis à 14 ans au Conservatoire de Paris, il étudie le piano dans la classe d'Antôme et sort 2 ans plus tard avec une première médaille. Élève docile et consciencieux, il achève ses études de piano sous la direction de Charles de Berriot, l'harmonie avec Pessard, le contrepoint et la fugue avec Gédalgue et la composition avec Gabriel Fauré.
Rien que ça.
Durant cette période, il se lie d'amitié avec le pianiste espagnol Ricardo Vignes, un confrère dans la classe de Berriot. Il est enthousiasmé par la musique de Wagner, Chabrier et Satie, ainsi que par l'école russe, tandis qu'au niveau littéraire, il se porte vers Baudelaire, Edgar Poe, Mallarmé.
Pas mal non plus ça.
Pas mal.
Baudelaire.
Ravel quitte le conservatoire en 1895 pour y revenir en 1896. On présume que c'est durant cette année passée hors du conservatoire qu'il aurait décidé de consacrer sa vie à la composition musicale.
Alors Marie, quelle est la première œuvre qu'il a publiée?
Alors la première de ses œuvres publiées, c'est la Habanera pour deux pianos qui date de 1895. Musique inouïe où l'essence même d'une personnalité se révèle d'un seul élan. Il intégrera d'ailleurs plus tard cette composition dans sa rhapsodie espagnole,
non,
Valérie.
Espagnole, oui. Alors, il a tenté 5 fois le Grand Prix de Rome, notre ami Ravel, hein, et malheureusement, ce fut un échec du compositeur. En 1900, en 1901, en 1902, en 1903 et en 1905, donc il est quand même pugnace, il s'accroche, hein. Ils ont certainement contribué à faire connaître le nom du musicien, bien au-delà du tapage médiatique de ce qu'on appela l'affaire Ravel. Et après le verdict de 1905, à l'issue de laquelle Théodore Dubois dut démissionner de la direction du conservatoire et fut remplacé par Fauré.
Oui, et Valérie, et en 3 ans de 1905 à 1908, Ravel va construire une part importante de son œuvre. Miroir, Histoire naturelle, Rhapsodie espagnole, L'or espagnol, Gaspard de la nuit, Ma mère loi. Merveilleux, ah, Ma mère loi.
Voilà. Donc, ce sont quand même des œuvres très importantes
très
dans
importantes.
Sa carrière. Et nous allons écouter sur Couleur FM 97.1 un extrait de La Merloie, justement. L'Aideronnette, impératrice des pagodes, par l'orchestre de la Suisse romande sous la direction d'Armin Jordan. On écoute.
Thank you.
C'est assez drôle, ça me fait penser un petit peu la sonorité du début de ce morceau à des musiques chinoises.
Oui, oui, oui. C'est vrai, hein ? Oui, oui. Princesse des pagodes.
Oui, oui. Alors, parlons maintenant des ballets russes de Diaghilev. Dès 1909, ils tiennent à s'assurer le concours de Ravel et ils lui confient la partition de Daphné et Chloé, symphonie chorégraphique la plus importante de ses compositions, au moins par la durée. Alors, cette création en 1912 est reçue avec chaleur par le public, alors qu'en 1911, les valses nobles et sentimentales avaient été créées sous les huées. Dès ce moment, la réputation du musicien grandit en France et à l'étranger et son influence gagne peu à peu toutes les provinces de la musique. La guerre de 1914, malheureusement, surprend Ravel à Saint-Jean-de-Luz et tandis qu'il achève la composition d'un trio pour piano, violon et violoncelle. Alors après maintes démarches, il parvient, malgré son faible poids, à se faire engager au début de 1916 et il devient chauffeur de camion à l'arrière du front de Verdun. Mais il est réformé en mars 1917. C'est un drame pour lui, hein. Il compose par contre à ce moment une suite pour piano, le tombeau de Couperin. C'est-à-dire que c'était pour lui un hommage à la tradition de l'ancienne musique française. Et au lendemain de la guerre, Serge de Diaghilev lui propose de composer un nouveau ballet. Et ce sera la valse qu'il s'empresse d'écrire, mais que les ballets russes refuseront de monter, Marie.
Comme quoi, on peut être demandeur et ne pas l'accepter.
Incroyable.
Et en 1920, après avoir refusé l'ordre de la Légion d'honneur,
incroyable aussi.
Toute sa musique l'accepte, dira Eric Satie. Et dans le but de se soustraire aux manœuvres politiques, il acquiert une maison, le Belvédère, en dehors de Paris. Et à partir de 1921, il habite Montfort-l'Amaury. Dès lors, il poursuit une vie intensément privée et ne se mariera jamais. Un tel retrait lui permet de se concentrer sur ses activités de composition et d'orchestration. Mmh. Et ce fut l'orchestration des célèbres tableaux d'une exposition de Moussorgski, commande de Serge Koussevitch, achevée en 1922, qui assit définitivement la réputation internationale de Ravel en la matière. C'est vrai que sa version reste la référence et éclipse celle des autres compositeurs qui s'y sont essayés. Même si certains regrettent que ce travail ait diminué la simplicité et la naïveté de la page originaire. Mais les tableaux orchestrés par Ravel font partie, avec le Boléro, des œuvres françaises les plus représentées à l'étranger quand même.
Oui, ça, le Boléro de Ravel, qui ne le connaît pas, hein. Et donc nous allons écouter maintenant sur Couleur FM 97.1 un extrait de tableau d'une exposition, La Grande Porte de Kiev, de Modeste Moussorgski, dans l'orchestration de Ravel, avec le London Symphony Orchestra sous la direction d'Ernest Ansermet.
Thank you.
C'est très solennel, hein, très, je dirais presque très souverain, cette musique.
Complètement. Alors, très russe.
Oh oui, très russe. Ou presque très anglais aussi, on pourrait dire.
Je ne sais pas.
Non. Alors Marie, à partir de 1922, Ravel, lui, il entreprend des tournées de concerts dans toute l'Europe, absolument dans toute l'Europe. Et ce musicien, qui est donc désormais célèbre, doit songer à réserver un petit peu de temps pour son travail, parce que c'est bien gentil, mais les incessantes tournées à l'étranger, les obligations mondaines, etc., elles tendent à lui soustraire ce temps de travail dont il a besoin. Hein.
Oui, et en 1925, entre deux voyages, il vit donc dans sa maison le Belvédère. Mmh. Il y écrit « L'enfant et les sortilèges », une fantaisie lyrique dont Colette a composé le livret et qui fut montée avec succès à l'Opéra de Monte-Carlo. Mmh. En 1928, Ravel entreprend une tournée triomphale de 4 mois, aux États-Unis cette fois. Cette tournée était plus une expérience personnelle et sociable qu'un stimulus créatif. En effet, en plus des nombreux concerts et récitals, Ravel rencontra les différentes personnalités américaines du domaine des arts, incluant le cinéma.
Ce qui n'est pas inintéressant pour sa
non.
carrière.
La même année, il se vit décerner un doctorat honorifique de la part de l'Université d'Oxford. Et au retour, il compose en 14 jours son fameux boléro.
Ah oui, quand même.
À la sollicitation de la danseuse Ida Rubinstein. Ce boléro qu'il n'aime pas et qu'il croit vide de musique lui apporte la consécration internationale.
C'est fou, quoi. C'est quand même souvent où les chanteurs ont l'impression que leur morceau
ne va pas marcher.
Pas, pourquoi ils vont le présenter dans leur plaquette.
Oui, on
et c'est celui-là qui paraît tellement insignifiant pour eux qui finalement va devenir quelque chose de super
important
dans leur carrière.
Oui, bien sûr.
C'est assez drôle. Mm. Et alors au cours donc, des années suivantes, Ravel, lui, il compose une sonate pour violon et violoncelle. Et ses 2 concertos pour piano. Et le 27 novembre 1931, le pianiste Paul Wittgenstein, amputé du bras droit, crée le concerto pour la main gauche à Vienne. Et le concerto en sol est créé par Marguerite Long le 14 janvier 1932 à la salle Pleyel de Paris. Il compose aussi de la musique pour le cinéma, notamment Don Quichotte à Dulciné. On écoute un petit extrait du presto final du concerto pour piano et orchestre en sol par le Philharmonique de Berlin sous la direction de Claudio Abbado avec au piano la grande Martha Argerich. Thank you. Ah, c'est drôle parce que ce morceau, il est par moments imposant, très solennel, et puis par d'autres moments complètement déjanté. Hein, et
complètement. Mais vraiment, plus on l'écoute et plus on l'apprécie, ce morceau. Et alors, je voudrais simplement dire que le choix de cette interprétation dirigée par Claudio Abbado est un petit clin d'œil à notre ami Régis.
Oui, Régis, voilà. Qui nous retrouvera dans pas longtemps.
Car je crois me souvenir qu'il aime beaucoup ce grand chef disparu le 20 janvier dernier. Voilà, un petit clin d'œil pour toi, Régis.
Voilà, Régis, bah, tu vas sûrement te faire plaisir. Alors, avant de parler de la fin de la vie de Maurice Ravel, Marie, on va dire quelques mots quand même sur ce boléro, parce que c'est quand même, il a fait une partie de la carrière de Ravel. Hein, donc la version du concert du boléro, elle fut créée, elle, le 11 janvier 1930 par les concerts Lamoureux, sous la direction de Ravel lui-même. Hein, et le compositeur avait déjà dirigé plusieurs représentations du ballet, à la tête notamment de l'orchestre Straram, mais jamais vraiment l'œuvre seule.
Alors, une petite chose, j'ai pu écouter ce boléro par Ravel, dirigé par Ravel. Je dois vous avouer qu'on n'est plus du tout habitué à où c'était l'enregistrement, la forme, mais c'est vraiment très particulier. Un jour, on l'écoutera ensemble. Mais d'accord. Voilà.
Qu'est-ce qui fait que c'était particulier ?
J'avais l'impression que c'était mal enregistré ou qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment d'instruments. Donc voilà. Donc d'accord, c'était un petit bizarre. Peu particulier.
D'accord. Alors, on rapporte aussi que lors de la première orchestrale du boléro, une dame, cramponnée à son fauteuil, s'écriait « Au fou, au fou !» Et à son frère, lui racontant la scène, Ravel aurait dit « Celle-là, elle a compris !»
Et oui, et pourtant, dans cette œuvre, Ravel réalise le tour de force de répéter 9 fois un seul et unique thème. Thème fait de 2 phrases de 16 mesures, la première franche, bien assise tonalement, et la seconde, plus langoureuse, plus ondoyante. Ce boléro est une longue montée en puissance au cours de laquelle les instruments de l'orchestre entrent un par un sur un thème identique, alors que résonnent les 4056 coups de la caisse claire pour aboutir à l'explosion finale.
C'est vrai que ça fait un peu feu d'artifice hein, par moment.
Oui.
Hein.
Oui, et c'est surtout très impressionnant également visuellement, parce qu'on voit ce chef d'orchestre devant cet immense orchestre qui donne un petit tempo et on voit un instrument qui se met à jouer, un autre. C'est vraiment, pour moi, c'est une chorégraphie musicale. Bon. Et actuellement...
Et quand il est repris aussi en danse classique, il est absolument phénoménal. Hein.
C'est absolument magique.
Ouais, ouais, moi, je absolument l'ai vu aussi magique. À Paris. Oui. C'était un pur bijou, quoi.
Et c'est encore l'œuvre actuellement la plus jouée et la plus téléchargée dans le monde.
Voilà, ça sert à quelque chose, Internet.
Ah, quand hein, même.
Voilà. Alors, Marie, on va écouter ce boléro. Et puis, bah, je vais me permettre un petit truc personnel. Je vais le dédier par la pensée à mon petit papa, dont c'était le morceau préféré et qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années. On envoie ce boléro par l'orchestre de la Suisse romande sous la direction d'Armin Jordan. On l'écoute en intégrale, on se fait plaisir, on le coupe pas. À Allez. Toi papa, par la pensée. On y va Laurent. Thank you. très très beau. Alors, nous voilà arrivés à la fin de la vie de Maurice Ravel et l'année 1932 marque le début d'une fin tragique pour lui. Une période durant laquelle il sera totalement à la merci d'une maladie dégénérative. Alors, certains commentateurs retracent les premiers symptômes aux insomnies qui l'assaillaient à la fin de la guerre. Un accident d'auto survenu le 8 octobre 1932 semble avoir précipité les choses. Toujours est-il qu'après cette date, ses forces vont progressivement baisser, et ce, malgré tous les nombreux efforts déployés par des amis sympathiques pour le stimuler. Bientôt, il ne fut plus capable de signer son nom, et il bougeait et parlait avec de plus en plus de difficultés. Sa vie consistait occasionnellement à assister à des concerts, à recevoir des artistes recherchant des conseils, et par-dessus tout, la compagnie de son frère et d'un cercle restreint d'amis.
Oui, et le 17 octobre 1937, il entre à la clinique du plus grand neurochirurgien français, Clovis Vincent, pour y subir 2 jours plus tard une intervention au cerveau. Quelques heures plus tard, Ravel ouvrit les yeux et réclama son frère, et on le crut sauvé. Mais Ravel se rendormit doucement, en fait dans un coma profond qui devint interminable. Il meurt le 28 décembre 1937. Sans cérémonie religieuse, le corps de Ravel fut directement conduit le 30 décembre 1937 au cimetière de Levallois, où reposaient déjà son père et sa mère. Conduit par Édouard Ravel, le cortège réunissait, outre les nombreux familiers, une foule éloquente de musiciens. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean Zay, fut chargé du discours officiel du gouvernement français.
Alors, c'est bien triste comme fin, malheureusement, pour Ravel. Et on dit que Ravel faisait preuve d'un souci extrême du détail, au point qu'Igor Stravinsky, je vais y arriver, pardon, compositeur russe, le qualifiait d'horloger suisse, en regard à son origine, ce qui, de la part de Stravinsky, était plutôt un compliment.
Et Ravel était de taille exiguë, sec et menu, disait-on. Sa physionomie était heureuse, curieuse et éveillée. Fort soucieux de l'élégance de sa mise, il était un véritable dandy.
Quand même.
Si l'on regarde les photos, il est toujours tiré à 4 épingles, tout le temps. Et Ravel
il avait
avec
déjà son petit style.
Oui, tout à fait. Oui. Ravel avait confié à l'un de ses amis, « Oui, mon génie, c'est vrai, j'en ai. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, si tout le monde savait travailler comme je sais travailler, tout le monde ferait des œuvres aussi géniales que les miennes. »
Alors, on sait bien
que... Tu crois que c'est possible?
Non, je crois pas que c'est possible, mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que faire un instrument, jouer de la musique, créer, ça demande quand même beaucoup de travail.
Ah, je crois.
Ça s'invente pas, non. Et c'est pas sans effort, en tous les cas, ça c'est
sans effort,
chose,
certainement.
Hein, voilà. Donc ça, c'était ce qu'on pouvait dire quand même. On va écouter un dernier morceau sur Couleur FM, oui. 97.1, et nous allons entendre la valse, orchestre des concerts du conservatoire, dirigé par Charles Munch, enregistré en 1942.
Donc, on verra un petit peu l'écoute.
Allons-y, on en voit. Nous voilà arrivés à la fin de notre émission sur Maurice Ravel. Et je vais donc vous présenter la petite rubrique, vous savez, notre nouvelle petite rubrique, les petits potins du classique en Rhône-Alpes. Vous retrouverez encore sur le site de Couleur FM, dans la rubrique Au fil des notes, cette liste de concerts qui vont se dérouler pour le mois de novembre. Donc il y aura Handel, Apollo et Daphné le jeudi 6 novembre 2014 à l'église Saint-Bruno des Chartreux, rue Pierre-Dupont, Lyon 1er. Vous le relirez sur le site de Couleur FM, les explications sur ces concerts. Vous avez aussi Bach Scarlatti le samedi 8 novembre 2014 à la basilique Saint-Martin d'Ennet 11 rue Bourgelat à Lyon 2. Puis l'Acmé Opéra de Léo Delibes le samedi 22 novembre 2014 et dimanche 23 novembre 2014 à la Bourse du Travail place Guichard Lyon 3. Puis le Quatuor Vassili le vendredi 28 novembre 2014, Théâtre de Villefranche, Place des Arts à Villefranche. Et pour terminer, le Bach Oratorio de Noël, mardi 2 décembre 2014, Église Saint-Just, rue des Farges, Lyon 5e. Voilà, vous retrouverez donc toutes ces informations sur le site de Couleur FM. Vous pouvez aussi réécouter nos émissions sur ce même site, dans la rubrique Au fil des notes. Merci Marie.
Merci Valérie.
Pour cette belle émission sur Ravel.
Au revoir à tous.
Au revoir à tous et puis à bientôt sur Couleur FM.
À très bientôt.
97.1. Au revoir. À très bientôt.